Au cours des années 80, le forum littéraire des jeunes écrivains de l'université d'Alep a joué un rôle essentiel pour l'histoire de la modernité de la poésie syrienne, qu'un nouveau lexique issu de la vie quotidienne. Le poète, selon eux, n'était ni un héros ni un prophète, et le poème ne portait plus les grandes idées métaphysiques ou politiques. La poésie résultante de ces expériences s'incarne dans une langue proche de la parole. L'objectif de ces poètes était d'aller vers une nouvelle sensibilité.
Est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire pas la théorie, ça m'inspire l'envie de d'être proche des gens, en fait. À un moment donné, la poésie, c'était une façon de me cacher derrière, ne pas dire les choses directement, trop ma façon d'écrire. Et c'est parce que j'avais aussi peut-être une langue qui était très influencée par l'ancienne langue. Des fois, il y a des gens qui disent, je ne parle pas de ma langue, mais c'est la langue sacrée de Coran, en fait. Il y a des gens, des amis, par exemple, qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à débarrasser de la langue religieuse, qui est très ancienne. Parce que peut-être ils étaient éduqués dans un milieu religieux. Moi, peut-être, on est influencé malgré nous, en fait, de cette langue aussi, qui est très littéraire, qui est très ancienne. Moi, à un moment donné, c'était mon langage, oui. Et ça veut dire travailler la langue qui se produit avec des mots qui ne sont pas forcément accessibles, des images qui ne sont pas forcément accessibles. Je me permets des fois d'écrire toujours comme ça, parce que je pense que c'est un exercice important quand on a envie d'exprimer cette ambiance ambiguë et de vivre la langue aussi. Entre le choix de partage et de publication, le choix d'écriture, ça c'est autre chose. Moi, si j'ai le besoin d'écrire ça, j'écris cette langue difficile. Mais je ne sais pas quelle année, mais j'ai décidé de changer un peu la méthode pour moi, pour un peu être plus direct, pour tester, pour savoir comment faire la gymnastique entre la langue, la parole du quotidien et l'imaginaire qui est d'ailleurs dans la poésie arabe. Je pense que l'imaginaire, c'est très important, c'est très imagé, la poésie. Comment faire ? C'est du coup des exercices aussi, comment être plus simple mais sans forcer la simplicité aussi non plus. Je souhaite être plus simple, une fois je dis ça, mais des fois j'arrive pas, parce que je pense que c'est à l'intérieur de moi, il y a certaines confusions qui doivent sortir. Peut-être à un moment donné, je vais sortir cette confusion par une simplicité, je sais pas. Mais je pense aussi le fait de faire de droit, ça m'a pas trop aidé à être simple.
بينما يخيل للشمس أنها صبية عشرينية تكشف قليلا من صدرها للعامة وتتمشى في القرب لكن الجميع كان معميا بتوهج خدين وقعا عليها من نار قديمة من نار حرب حدثت في سنوات ضوئية بعيدة يا شمس كوني صدرا ونارا لا تغرقنا وإن لمست قال الغراب البعيد لقطعة الجبن التي نزلت للثعلب يا حسنائي لا يزال جرحك غضا وثيابك على السرير لا تزال تحرك لعابي بينما لحمك اللين وهو يتمشى في الغابات يذكرني بجناحي حين كنت يافعا وكنت أحملك أوزع من فتاتي ملحك داخلك كل غصن كان طعمك غنائي بين كل الطيور يا قطعة الجبن قال الثعلب وهو يرمي كل ما سرقه من الطيور أجسادها طعامها فتات غرورها ريشا مات من أجنحتها لا تلوموني أشبه الطريق منقسما لعدة فروع ووحده الدرب الترابي الذي لم تروه يفضي إلي. حين أكون في تجل تنزل أسماء كثيرة مني، ربما كان الخريف وكنتم أنتم في ظلكم المهجور أوراقي. لو تروه في المرة القادمة لا تذكروا اسمي أمامه، قولوا كان الطريق. وكان في البيت موقد وامرأة، قالت ليلى وقد كبرت وتجاوزت عمر الحكايات وصارت سماء من المجاز وبلغت ذروة نشوتها في بئر من الغربان. هذه الحروب تين مجفف أعيدوني إلى بيت جدتي.
J'ai aussi lu qu'en poésie arabe, et donc aussi en Syrie, il y avait une expression qui était poésie verticale, qui désignait quelque chose de très précis, c'est-à-dire la poésie classique arabe traditionnelle. Toi aussi, dans tes poèmes, tu parles aussi de structure verticale, d'immeubles, d'hommes blottis au fond de la mer qui regardent vers le haut, comme nous voyons le ciel. Et évidemment, c'est pas la même chose, mais il y a également une idée de verticalité. Et je voulais savoir si, pour toi, regarder vers le haut, c'était aussi une forme d'espoir.
je pense qu'il y a une influence, malgré moi. Je veux dire. C'est... Moi, je me rappelle quand... Toujours, j'avais un sentiment de contact avec les choses qui sont autour de moi. Et quand on regarde autour de nous, on commence par les arbres, par les gens, d'accord, ok, mais pour moi, mon lien fort, ça a commencé d'abord avec la nature. Dès que tu commences à regarder les arbres, tu es obligé de regarder le ciel, en fait. Du coup, cette verticalité, comme tu le vois, c'était le premier appel ou l'envie de sortir de soi-même vers l'extérieur. Et cet extérieur, dans mon cas, c'était vraiment vers la nature. Et la nature, à la montagne, dans la montagne méditerranéenne, c'est vraiment, vraiment très vertical. Aussi, c'est des montagnes, c'est des arbres différents. C'est comme un peu Marseille, en fait. Ça ressemble beaucoup à Marseille.
C'est pour ça que tu aimes bien Marseille.
Oui. Et je pense aussi, le fait de vivre à la montagne, c'est pas rien. Parce que tu es toujours sans aimanter, regarder plus haut ou descendre. Ou remonter. En fait, l'espoir, c'est pas lié forcément à la hauteur, à mon avis. C'est lié comment, où est-ce que tu as trouvé l'objet de ton association personnelle, psychologique et poétique. Et moi, peut-être, c'est un saut entre le bas et le haut qui me fait mouvement. C'est un mouvement, en fait. C'est comme les vagues, comme le vaguement. Mais...
Et la poésie nous est vitale, je crois. J'ai l'impression qu'en ce moment, en particulier en France, il y a aussi un espèce de regain pour la poésie que je trouve très heureux. Et j'ai aussi l'impression que ça vient particulièrement... c'est une langue qui vient nous sauver, la poésie, à un moment où d'un coup, on n'a plus confiance dans les mots qui nous entourent aussi. Et je pense qu'à la fois... politiquement, à la fois quand on a de plus en plus, quand on est en présence de plus en plus de langues qui nous trahissent, je pense que la poésie peut en partie nous accueillir et du coup peut-être nous sauver un peu. Ce que j'adore dans un livre de poésie, c'est qu'on peut l'ouvrir quand on veut, que c'est des espèces de petits talismans parfois qui sont courts et qu'on peut aussi se l'approprier, puis refermer le livre et le rouvrir un an après.
En fait, déjà, quand je suis arrivée en France, j'étais un peu... surprise de mettre le point d'exclamation souvent pour dire salut, par exemple, pour dire bonjour. Ou je comprenais pas, même pour l'instant, je comprends pas où est-ce que je dois mettre ou pas.
Mais pourquoi? Parce que ça veut dire quoi pour toi, un point d'exclamation?
C'est... Parce qu'en fait, l'exclamation en arabe, ça veut dire que tu es exclamé, en fait, qu'il y a quelque chose qui te surprend pour nous. ta'ajjub. C'est, ça veut dire que tu regardes, tu vois, c'est comme le smile qu'on voit l'emoji dans le quelqu'un qui est surpris. Alors pourquoi en disant bonjour, je dois mettre ça? C'est bon, je comprends un peu la nuance. Heureusement, c'est ça la vie quand tu vis dans un autre pays. Mais pour exprimer que oui, c'est différent là. Déjà, il y a dans certains points, mais dans la poésie, je pense peut-être c'est pas, ça peut passer sans point de ponctuation et ça se comprend. Après, je pense j'ai déjà lu, j'ai lu récemment un peu un livre d'une poétesse française qui s'appelle Clara Essay. Qui ne m'était pas du tout, en fait. Et des fois, je ne comprends pas forcément, ou ça me fait un doute. Je ne comprends pas, ça veut dire les sentiments, je veux dire, mais c'est beau, en fait, des fois, de ne pas mettre. Mais il faut vraiment maîtriser. Moi, je n'ose pas faire ça en français. Même quelqu'un qui m'a corrigé des textes, elle m'a dit non, il faut mettre, parce que quand il s'agit d'autres traductions, c'est mieux aussi de mettre. Ce n'est pas comme quelqu'un qui maîtrise le français, qui est comme cette poétesse, qui sait qu'est-ce qu'elle fait par rapport à mettre ou pas mettre.
L'arbre aux oiseaux empoisonnés. Il a dit à son fils, « Élague tes branches et reste sur une seule jambe. Ne dis pas, je suis déraciné. » Ce pays a dispersé ma famille comme une volée de colombes. Et telle une eau impure, il s'est infiltré dans mes rêves. Je marche comme un tronc brûlé, un homme à la face vitrifiée, une fissure dans les racines, le regard meurtri, mes oiseaux sont empoisonnés.
Mais justement, là, tu viens d'évoquer l'exil. Parfois, dans ta poésie, j'ai l'impression que, à travers certaines images, tu le vois parfois comme une forme de, je dirais, de mutation presque biologique à travers les différents éléments, en fait, entre l'eau, l'air. Et il y a une autre poétesse qui s'appelle Ala Mohammad, qui a écrit concernant l'exil que c'était le deuxième cri, la patrie, le premier cri.
C'est très beau.
Ouais, super beau. Ouais.
Ouais. Oui, je connais Ala et c'est une grande poétesse et c'est une mytheuse en scène syrienne. Je peux interpréter ça pour dire qu'on commence à sentir la patrie quand on est en exil, en fait, de sentir comme cri. Quand on est à l'intérieur, quand on est dedans, on peut poser des questions. Il y a toujours cette phrase, on est exilé sur soi, mais chez soi, en fait. Ça veut dire on peut aussi sentir cette sensation d'exil, qu'on est étranger chez soi, dans notre pays. Mais c'est pas pareil. C'est aussi un exil quand on ne se ressemble pas forcément aux autres, on n'arrive pas à vivre nos idées. Ce cri-là, cette sensation, cette idée-là de cri, le deuxième, ça veut dire le premier cri, c'est parce qu'on a vécu l'exil que ça existe, le premier cri. Comment je définis, en fait, comment je peux me définir maintenant par rapport à cette situation d'exil ou de patrie? Ça fait 16 ans que je suis en France, je pense. Je pouvais retourner, j'ai pu retourner quand même 4 fois en Syrie. Là, ce n'est pas le cas maintenant. J'essaie par tous les moyens de rentrer pour voir ma famille, mais ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vue, ma mère. C'est ça, en fait, l'exil. C'est ne pas avoir la liberté de se connecter avec les choses chères, les gens chers à toi-même, à se lier, oui, avec les lieux qui t'ont construit, qui t'ont façonné, avoir l'évolution, la mutation des lieux, des choses, de ne pas sentir un peu appuyé par cette racine qui t'a fait grandir et qui t'est là en fait quand t'étais enfant. Cette racine là, de ne pas pouvoir appuyer par cette racine, ça veut dire moi je suis là même si je travaille, même si j'ai tous les privilèges des autres citoyens, mais je sens des fois qu'il y a un truc qui est comme un territoire dans mon cerveau, dans mes souvenirs, que je n'arrive pas à le voir. À me connecter à nouveau avec lui, avec ce territoire. Et ça affaiblit beaucoup, que je ne peux pas être là-bas. Ça, c'est, on parle vraiment, c'est d'être là-bas librement et vivre un moment qui évolue avec le temps. Ça veut dire un moment, ça peut être un mois, ça peut être aussi un an. Toute cette privation de la liberté, ça fait beaucoup de lieu d'accueil, une source de doute aussi. Est-ce que je fais partie de cette société? Est-ce que si j'ai pas la liberté de rentrer là-bas alors que je dois m'intégrer beaucoup, si j'arrive pas à me connecter avec à être française 100% si je ne comprends pas toutes les blagues. On fait tout pour prouver à soi-même d'abord qu'on peut être, on peut faire partie, mais c'est très difficile. Je pense, je ne sais pas si ça vient avec le temps ou avec l'âge, mais c'est un truc, quand tu es privé de vivre l'autre expérience, ça reste toujours une blessure qui t'empêche à être à fond ou 100% dans le pays d'accueil.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisait Kerouac qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre.
Après moi quand je parle de l'intégration, je parle de sentir, de créer un peu un cellule pour moi ici, que je sentir que c'est un territoire qui me concerne. Ça veut dire ça peut être par les amis, par
évidemment.
Et après je sais qu'il y a toujours des gens qui vont me regarder de manière négative ou neutre comme l'autre. Je veux dire, il y a des gens aussi qui, c'est pas forcément avec méchanceté, mais je veux dire, c'est un regard qui existe et qui te rappelle tout le temps que t'es pas de là. Ça existe par ça commence par mon prénom, qui n'est pas forcément habituel, par ma physique, par mon accent, tout ça. Tout le temps être rappelé que tu n'es pas français, ça peut soit être vraiment par... sans méchanceté, et ça peut être aussi méchant, je veux dire, avec un regard inférieur ou autre.
Tu viens d'évoquer, c'était émouvant, les paysages chers de ton enfance, de ton pays. Je voulais savoir si parfois tu avais pu ressentir peut-être de la colère ou de l'incompréhension face à la manière dont la Syrie en fait était racontée ici en Europe. Et aussi, et j'espère que c'est pas ce qu'on est en train de faire, est-ce que parfois t'as l'impression qu'on t'enferme, tu vois, dans une étiquette, qu'on t'essentialise un peu?
Oui, je pense que comme poétesse, je suis enfermée dans une étiquette, oui, d'une poétesse syrienne. On attend toujours de moi de raconter un peu la guerre, en fait. Et ça, c'est une question qui pèse à la fin, parce que tu es toujours regardé comme quelqu'un qui doit raconter l'info d'une manière poétique. Après, je comprends. Mon premier recueil qui est sorti en arabe, c'était en 2017. C'est sorti en plein révolution, je veux dire, guerre civile syrienne. Je ne voulais pas, poétesse de nouvelle génération à l'époque, parce que j'étais plus jeune, d'échapper à cette question. C'est-à-dire d'assumer que non, moi je suis quelqu'un qui a commencé à écrire vraiment à l'exil, alors que son pays a vécu quelque chose. Vivait quelque chose d'exceptionnel, pour ne pas dire la guerre, mais c'est exceptionnel, c'est la guerre, et parler poésie, c'était toujours, je pense, écho, même quand je parle de l'amour, c'est aussi, ça faisait écho à cette situation qui est affreuse, je veux dire. D'une manière, moi j'assume, mais ce que j'aime pas, c'est-à-dire quand toujours le public attend des poètes palestiniens, des poètes syriens, qu'on raconte quelque chose qui libère de la douleur qui, si je l'en, en tout cas le public qui vient pour écouter la poésie d'un poète palestinien ou syrien, c'est forcément, il est sensible à la question. Mais un poète palestinien, un poète syrien aussi, ou une poétesse palestinienne ou une poétesse syrienne, ils peuvent aussi être sensibles à autre chose qui dépasse cette question. ou écrivent la poésie, sans parler de la sensibilité, mais écrivent la poésie sur d'autres sujets qui sont personnels, qui sont... Et, mais après, moi, ça ne m'empêche pas, en tout cas, d'écrire. Ça veut dire l'enfermement, c'est, d'abord, c'est, ça vient de toi-même. Est-ce que tu as envie vraiment d'être invité tout le temps parce que tu te présentes cette étiquette, ou tu as envie d'écrire pour écrire? Du coup, c'est l'enfermement, ça dépend, ça vient de l'extérieur, mais ton enfermement intérieur, c'est ça le plus important. Si je me mets moi-même dans cette étiquette-là et je commence à écrire que sur ça, parce que je serai écoutée, alors là, je tue le côté poétique sur moi et je commence à correspondre à ce qu'on me, aux attentes des autres. Et par rapport à la série Comment t'es raconté, quand je parle de la média, ça suit un peu le flux d'intérêt lié à comment on raconte les choses. Ça veut dire des fois, les événements en série s'étaient racontés comme ils étaient vraiment, ça c'est une chose. Et des fois, c'est divulgué pour des raisons politiques, parce que ça fait un intérêt de cacher des choses. Avec les réseaux sociaux, toujours, il y a des journalistes qui ont réussi à passer leur message d'une manière moins formelle. Du coup, à la fin, c'était raconté, mais c'est toujours sous l'influence des intérêts politiques. Après le printemps arabe, c'est une nomination qui s'était donnée. Ce qui était marquant surtout, c'est quelqu'un qui s'est mis le feu, parce que pour moi c'est le plus important. Le printemps arabe, vraiment, c'est une définition qui était donnée pour le mouvement. Après, c'est répandu dans toute la région. Pour moi, c'était impressionnant aussi de découvrir, même, je connaissais pas forcément la politique en Tunisie, mais je connaissais rien. C'est vrai que c'est un monde arabe, mais moi j'ai commencé à comprendre l'Algérien et le Tunisien ici. Je veux dire, on n'est pas forcément ouvert vers les autres, l'actualité dans les autres pays arabes, sauf les grandes lignes. Et c'est beaucoup sur le Liban, même plus que la Syrie, parce que le Liban, c'était un pays très politisé. Là où j'ai grandi, on avait beaucoup toutes les chaînes libanaises. Du coup, je connaissais beaucoup la politique libanaise, plus que la syrienne. En fait, il y avait une chaîne publique qui parlait tout le temps ce que le régime voulait dire. Alors, le Liban, c'était un pays qui était... Oui, beaucoup de partis politiques qui ont chacune une chaîne qui présentait les idées. Quand ça a commencé, c'était comme une... Waouh, en Tunisie, il y a eu de la corruption aussi. En plus, en Égypte, je savais que c'était un régime autoritaire comme la Syrie. Quand les gens ont commencé à sortir, etc. Même en Libye, pareil, ça... Pour moi, c'était aussi un choc quand Kadhafi a commencé à frapper les peuples, en fait, qui s'ensuit après en Syrie et en Égypte. Tout ça, ça a augmenté l'angoisse que je vivais déjà. L'obligation d'intégrer, en fait. C'est trop deux contraintes qui sont d'un côté la région qui vivait quelque chose très radical. De l'autre côté, pour moi, dans ma vie personnelle, c'était des obligations qui étaient contradictoires par rapport au printemps arabe, pour le dire.
Le 18 mars 2011, trois mois après la Tunisie, la Syrie est le quatrième grand pays arabe à s'embraser. Les Syriens descendent dans la rue pour la liberté, pour s'inscrire à leur tour dans ce printemps arabe plein de promesses, pour demander la démocratie dans un pays où la famille El-Assad est au pouvoir depuis 40 ans. En un mois, le mouvement s'étend à tout le pays. Sa répression est terrible.
Ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin.